Bonjour à chacun. Comme dit le proverbe, chose promise, chose due. On va revenir sur la question du couple, les relations hommes-femmes. Et c'est incroyable que vous ayez cette série de prières pour les familles, parce que pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait un homme et une femme et qu'ils forment un couple. Donc je pense que vous allez peut-être, j'espère, ma prière, c'est que ce que je vais partager avec vous inspire votre prière, votre intercession pour les familles, et puis soit aussi un encouragement pour vous, parce que on n'est pas là comme des gens qui sont déjà au ciel. On est nous-mêmes en route par rapport à nos relations conjugales ou familiales. Voilà. Alors, je reviens, je vais rapidement rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, hein. Donc, on a revisité, en quelque sorte, le plan original de Dieu pour le couple. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé que Dieu a créé l'homme en premier et la femme après lui pour être son aide semblable. Mais la Bible souligne des choses extrêmement importantes. Parce que, entre parenthèses, l'islam reconnaît cela. Mais alors quand il s'agit, il reconnaît que la femme a la même dignité que l'homme. Mais alors, dès qu'on arrive dans les questions pratiques, pas du tout, pas du tout. Mais, parenthèse fermée. Donc, ils sont tous les deux, selon la Bible, créés à l'image de Dieu. Et donc, ils sont égaux en dignité. Point fondamental. Et puis, ils partagent la mission d'être féconds, de croître, de multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. Ça veut dire de tirer de la vie tirer de la terre, de la création, tout ce qui est nécessaire à la vie, tout ce qui rend la vie possible, c'est ça, dominer sur la création. Et puis on a énuméré aussi un certain nombre d'éléments, d'indices qui suggèrent que Dieu a établi l'homme comme la tête, comme le berger de la femme. Aïe, 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 c'est ce que j'ai entendu? Non. Et puis, la chute est survenue, et à partir de ce moment, Dieu a fait peser sa malédiction sur la femme qui enfante dans la douleur et sur l'homme qui tire avec peine sa nourriture du sol que Dieu a maudit. Et puis, cette malédiction, la malédiction ultime, en fait, ça a été d'expulser l'homme et la femme du jardin. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela. C'est que Dieu a promis que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, et lorsqu'Adam a entendu cela, il a compris qu'il y avait un espoir, et que cet espoir était dans le fait d'avoir une descendance. Et ça, donc cet acte de foi qu'il a partagé avec Ève a permis la naissance de fils, dont Abel est le premier de cette série, de cette descendance qui va écraser la tête du serpent. Ça, c'est le résumé de l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent absolument rien de l'histoire de leurs premiers parents. Et donc, de ce fait, ils sont pas sûrs du sens original de mots tels que amour, homme, femme. En fait, qu'est-ce que c'est qu'être homme? Qu'est-ce que c'est qu'être femme? Mariage, fidélité, famille. Tout ça, c'est des mots dont le contenu est devenu très très flou pour beaucoup de gens. Et donc, ces gens, évidemment, on vit avec les mots, et donc ils sont obligés de les redéfinir, en quelque sorte, ils les redéfinissent comme ils peuvent, selon leurs désirs, selon toutes les idées que le monde produit en continu à ces sujets et à propos d'autres. Et peut-être que, même si c'est difficile à concevoir pour nous, on peut probablement établir un parallèle entre notre société et celle de Noé. Parce qu'on lit en Genèse 6, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Alors ça, on en a assez de témoignages. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. C'est une manière tellement ramassée de dire l'humanité était un véritable désastre moral, spirituel. Et aujourd'hui, on peut dire la même chose. Notre société est un désastre moral. Quand on est conscient des valeurs fondamentales de ce que Dieu a fait, aujourd'hui, la création de Dieu et son intention pour l'homme et la femme sont méprisées, insultées, subverties. Alors, comme nous, chrétiens, nous sommes des individus perméables aux modes et aux mœurs du contexte dans lequel nous vivons, eh bien, nous avons besoin de dire et de rappeler que Dieu seul est habilité à définir ce qui est réel et ce qui est bien. Et donc, c'est en étudiant la Bible que nous allons chercher, et j'insiste, et qu'on va trouver, on va pas seulement chercher, on va trouver comment Dieu conçoit les relations entre l'homme et la femme. Et on va poursuivre cette recherche, même quand le texte biblique nous paraît totalement rétrograde, totalement impraticable. Nous allons le faire en maintenant ce que j'ai déjà dit, c'est que Dieu est celui qui définit ce qui est réel et ce qui est bon. Et ça nous préservera de nous égarer cruellement. Alors, ces choses étant dites, il y a une première question à nous poser à propos des relations homme-femme. Est-ce qu'il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament par rapport au mariage? Genèse 2, 24 présente l'institution du mariage en termes, mais vraiment tellement simples et concrets, parce que Genèse 2, 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc, l'homme quitte, l'homme s'attache, et l'homme devient une seule chair. On peut pas plus clair. Plus clair, tu meurs, comme on dit. Mais cette institution du mariage, elle est très rapidement contestée. Par exemple, Lémec, qui devient polygame. Une femme, c'est pas assez pour lui. Et quand, beaucoup plus tard, les pharisiens demandent à Jésus, pour le tester, s'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif, qu'est-ce que fait Jésus? Il cite Genèse 2, 24, mot pour mot. Rien n'a changé. Et puis, il ajoute, si Moïse vous a permis de répudier vos femmes, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et ça, il faut bien s'en souvenir. Les problèmes dans le couple, c'est à cause de la dureté de notre cœur. À cause de la dureté de votre cœur, et puis il ajoute, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Donc, tout est clair dans l'esprit de Jésus. Les lignes ne sont pas floues. On voit donc que, au lieu de relativiser le caractère sacré du lien du mariage, Jésus le renforce. Et il y a une raison fondamentale à cela, qui nous ramène au texte de la Genèse, c'est que le mariage, c'est la condition nécessaire pour que l'homme et la femme puissent accomplir leur mission sur terre, c'est-à-dire être fécond, croître, multiplier, remplir la terre et l'assujettir. C'est la base de toute société. Si vous enlevez la famille, qu'est-ce qui reste d'une société? Rien. Une masse de gens errants qui ne savent pas où ils vont et pourquoi ils sont là. Alors, ça c'est ce que dit Jésus. Paul s'est aussi exprimé sur cette question en Éphésiens 5, quand dans la partie qu'il consacre à la relation entre homme et femme, il confirme la pérennité de l'institution du mariage, et lui aussi, il reprend mot pour mot Genèse 2, 24, mais il rappelle au passage que hommes et femmes ont des rôles différents à jouer. Et ça, c'est une chose inaudible aujourd'hui. Il y a des gens, ça les fait grimper au mur quand vous dites ça. Mais la Bible insiste. Hommes et femmes ont des rôles distincts, mais complémentaires, qui s'enrichissent mutuellement. Et il faut reconnaître que il y a un vent qui souffle dans la société, mais aussi dans l'Église. Aujourd'hui, le point que je viens de mentionner, le caractère distinct de l'homme et de la femme, leur caractère complémentaire, ça fait réagir certaines personnes très violemment. Certains chrétiens, d'ailleurs, partagent ce sentiment. Et un peu pour renverser la table, pour soutenir l'idée de relations absolument égalitaires entre l'homme et la femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils citent Galates 3.28. Je ne vais pas commenter Galates 3.28, ça sera pour une autre fois. Mais qu'est-ce que Galates 3.28 dit? Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Christ. Et donc ces gens disent, mais vous voyez, Paul lui-même dit, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence entre hommes et femmes. Tout cela a été aboli. Alors, pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à une telle conclusion? C'est parce qu'ils considèrent que puisque Christ est venu pour nous libérer de la malédiction du péché, eh bien, l'idée que l'homme puisse être encore le chef de la femme, mais chef, vous comprenez dans quel sens, hein? C'est la tête, c'est le berger, celui qui conduit, qui lead. Ils considèrent que cela, c'est complètement caduque parce qu'ils disent ça, c'était le résultat du péché, parce qu'ils ont à l'esprit la parole de Dieu à la femme qui dit « tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi ». Alors effectivement, de ce point de vue-là, on peut dire « ouais, c'est l'effet du péché, c'est les conséquences du péché ». Donc, selon ces gens, les femmes sont égales aux hommes, et de ce fait, elles doivent pouvoir exercer dans l'Église un ministère d'autorité, elles doivent pouvoir devenir anciens puisque elles-mêmes sont égales avec l'homme et qu'elles sont donc habilitées à exercer l'autorité dans l'Église. La question se pose donc, comment est-ce que le Nouveau Testament conçoit les rapports hommes-femmes? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Alors, lors d'un prochain culte, on verra les textes qui parlent du rôle de la femme dans l'Église. On ne va pas tout mélanger, c'est déjà assez compliqué. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les passages qui parlent de la relation de l'homme et de la femme dans le couple. Et là, le premier verset que je vais citer, c'est une bombe. C'est une bombe parce que Paul dit, c'est 1 Corinthiens 11.3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Christ et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, Christ, chef de l'homme, l'homme, chef de la femme, Dieu, chef de Christ. Oula, ça fait beaucoup de chefs, hein, ça on n'aime pas. Mais en réalité, Paul énonce ici une vérité fondamentale. Il énonce un mystère. Il parle d'un mystère. C'est un mystère qui est révélé aux disciples de Jésus. Ce verset, il décrit la structure relationnelle que Dieu a établie pour son peuple dès l'origine, avant la chute même. Alors, il y a évidemment des chrétiens qui interprètent cette structure relationnelle comme une structure d'oppression. Et là, on est sous l'influence du marxisme, clairement. Hein, parce que toute relation dans le marxisme, c'est des relations de puissant à faible, de possédant à dépossédé, etc. Donc on est dans cette ligne-là. Et donc ces gens disent, mais le verset qu'on a là, ça n'est pas ce que réellement Paul a voulu dire, c'est la tradition qui lui fait dire une telle chose. Mais Dieu ne peut pas être l'auteur d'une idée aussi injuste et scandaleuse que la femme soit soumise à l'homme. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une structure de domination? Est-ce que Dieu a pu concevoir une structure qui permette ou qui appelle l'homme à asservir celle qu'il lui a donnée lui-même comme aide semblable? Comment est-ce qu'on peut y voir clair vis-à-vis de cette problématique. Eh bien, je suggère qu'on peut y voir clair en posant une autre question. Excusez-moi. Et l'autre question à se poser, c'est en quoi les relations au sein de la Trinité ressemblent aux relations au sein du couple. Peut-être que là, il y a quelque chose à découvrir. Dans la Trinité, vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont continuellement en interaction. Et tout ce qui se passe implique toujours les trois personnes. Nous, souvent, on ne voit que l'Esprit, ou en tout cas dans certains milieux, on ne voit que l'Esprit, mais en réalité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont toujours engagés ensemble dans l'action de Dieu. Et je vous donne quelques exemples. Au moment de la création, qu'est-ce qui s'est passé entre Père, Fils et Saint-Esprit? Dieu a imaginé l'univers. Le Fils a appelé cet univers à l'existence. Et le Saint-Esprit atteste de la réalité de cet univers, ou bien à propos de notre salut. Dieu a voulu et conçu notre salut. Le Fils en a payé le prix, et maintenant le Saint-Esprit nous en applique les bénéfices. Père, Fils et Saint-Esprit œuvrent continuellement ensemble. Mais, il y a un petit mais, quand Jésus était avec ses disciples, il n'a pas eu peur de lui dire « Le Père est plus grand que moi. » Le Père est plus grand que moi. Et même si les personnes de la Trinité sont égales en divinité, cela n'a pas empêché le Fils de choisir de se soumettre au Père, et ça n'a pas empêché le Saint-Esprit de se mettre au service de Dieu et de l'Esprit en jouant le rôle d'avocat auprès des hommes. Vous pensez que la fréquentation des hommes par le Saint-Esprit est très agréable pour lui? Combien on offense Dieu? Combien l'Esprit est attristé? Mais il a accepté. Il a accepté ce rôle. Il n'est pas resté dans la gloire. Alors, voici le point que j'aimerais souligner. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux en divinité, de même, l'homme et la femme sont égaux en dignité. On a déjà vu ça. Maintenant, on fait un pas de plus. Comme pour accomplir son œuvre, l'œuvre de Dieu, alors on voit comme le Fils a accepté de s'abaisser, d'embrasser le rôle de serviteur, eh bien, de même, l'homme est appelé à embrasser ce rôle de serviteur gérant de la création, et la femme est appelée à accepter aussi d'être serviteur du serviteur, en quelque sorte, ou de servir Dieu avec son mari pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée sur la terre. Il y a un point qui nous échappe souvent. C'est que notre couple n'est pas composé de deux personnes, mais de trois. Si j'aime ma femme, c'est parce que Christ me le demande et m'en rend capable. Et si ma femme m'aime, c'est parce que Christ, la première personne de notre couple, le lui demande et lui en donne la force. Et dans ce contexte de couple à trois, exiger l'égalité, c'est une manière d'exclure Christ. Parce que Christ fonde notre relation au sein du couple sur l'amour, pas sur l'égalité. Par conséquent, exiger l'égalité dans un couple, quand ça arrive, je vous assure, il y a beaucoup de souffrance. J'ai connu ça. Exiger l'égalité dans le couple, c'est œuvrer à la destruction du couple. C'est sûr, le couple explose. Parce que c'est impossible d'assurer l'égalité. Et c'est même pas le but de Dieu. Alors, au lieu de nous laisser dominer par un esprit qui exige l'égalité, nous avons besoin, comme dit Paul, des sentiments qui étaient en Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il a accepté de devenir serviteur. Vous voyez, quand les personnes de la Trinité, là on est dans la théologie fiction, mais quand les personnes de la Trinité ont discuté du salut, il n'y a pas un moment où Jésus a dit à Dieu, mais écoute, en fait, pourquoi tu n'y vas pas toi-même dans le monde pour sauver les hommes? Il n'y a pas eu ce genre de discussion. Parce que leur relation est tellement parfaite et fondée sur l'amour que le Fils a accepté d'être celui qui allait payer pour les péchés. Il aurait pu se révolter, il aurait dit non, mais moi je suis Dieu, qu'est-ce que tu me demandes? Non, il a dit non, je renonce. Pour l'amour, à cause de l'amour que nous avons, non seulement l'un pour l'autre, mais pour l'humanité. Donc les trois personnes de la Trinité sont une, mais elles acceptent chacune de jouer un rôle particulier. Le Père, de ce point de vue-là, le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ils ont chacun leur rôle particulier, mais néanmoins, ils sont Dieu totalement, pleinement. Alors, ce qui permet à un couple de durer et d'être heureux, ce n'est pas de rechercher une stricte égalité en tout, mais c'est de choisir d'aimer. D'aimer l'autre qui est différent de moi, mais qui est mon complément. Et avec mon conjoint, nous allons accomplir notre mission sur cette terre. Maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament dit de la relation, de manière plus précise, de cette relation entre l'homme et la femme? Il y a quatre passages du Nouveau Testament qui s'adressent spécifiquement aux femmes. Le premier, qui fait aussi grincer des dents, mais c'est normal, si on ne comprend pas le contexte, si on ne comprend pas l'intention profondément bienveillante et sage de Dieu, ces textes nous sont insupportables. Éphésiens 5, 22, Paul dit, Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous voyez tout de suite, il ne dit pas non parce que c'est l'homme, tu vas te soumettre à lui parce que c'est l'homme. Il dit non. C'est parce que le Seigneur le demande. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Paul, il rappelle ici que, avec Christ, Dieu a restauré l'ordre créationnel. Premier, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à la femme Adam pour tête, pour berger. Évidemment que la chute et le péché ont ensuite provoqué de profonds dérangements dans cette relation. On voit la honte. On voit le mensonge, on voit la haine, on voit le meurtre à partir de Genèse 4. Mais depuis que Jésus a vaincu le péché et la mort à la croix, Dieu demande à toute femme qui reconnaît que Jésus est son sauveur et son Seigneur, Dieu lui demande de retrouver l'attitude initiale de la femme envers Adam, c'est-à-dire d'être soumise à son mari, comme l'Église l'est Christ. Maintenant, il y a un avertissement à donner. Peut-être qu'il est totalement inutile ici, mais il faut quand même le donner. C'est que l'homme qui exige que sa femme lui soit soumise n'a rien compris. C'est pas aux hommes d'exiger que leur femme soit soumise. Une femme ne se soumettra jamais librement à son mari aussi longtemps si elle ne pourra pas le faire si elle n'a pas compris que c'est ce que Jésus lui-même lui demande. Donc c'est pas une humiliation en ce sens, c'est que Jésus lui demande et que ça fait partie de sa vocation au sens le plus profond du terme. Alors voilà pour ce premier passage. Il y en a un autre qui est, sur lequel on va rester moins d'une minute. En Colossiens 3:18, Paul dit simplement, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. À nouveau, on est dans le cadre spirituel, on est dans le cadre de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Par ses paroles, Paul laisse entendre que quand on parle de soumission de la femme à l'homme, on est dans la normalité. Une normalité évidemment restaurée par l'œuvre de Christ. Je passe à un troisième texte, Tite 2, 3, 5. Ça, c'est un peu plus domestique, c'est intéressant, parce que ce sont des instructions que Paul donne à Tite, qui devait s'occuper de l'Église en Crète. Et là, il dit, voici ce que tu dois enseigner aux femmes âgées dans l'Église. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari. Vous savez pourquoi? Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est intéressant parce que les gens, même les non-convertis, ils ont une idée dans leur tête de ce qui est juste, même s'ils n'arrivent pas à le vivre eux-mêmes. Et s'ils voient des familles chrétiennes sans dessus-dessous, où les gens se disputent, ils disent « Ha ha, parlez-moi de l'Évangile ». Qu'est-ce que Tite doit recommander à ces femmes, aux femmes âgées, de se comporter d'une manière honorable, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles ne soient pas portées sur la bouteille. Dans la région, peut-être que c'est difficile pour certains, hein, s'il y a du bon vin. Et puis d'instruire les jeunes femmes, c'est-à-dire peut-être leurs propres filles, mais aussi peut-être de jeunes femmes dans l'Église qui n'ont pas de modèle féminin. Ces femmes âgées, elles doivent leur apprendre à aimer leur mari et leurs enfants, à être modestes, à prendre soin de leur foyer et être soumises à leur mari. Alors, pourquoi tout cela? J'y ai déjà fait allusion. Parce que si les gens de l'extérieur voient que dans une famille chrétienne, l'harmonie, la paix, l'amour caractérisent les relations au sein de cette famille, les gens, ils ont plus envie de se moquer de l'Évangile. Parce que là, ils sont devant la preuve que l'Évangile fait une différence dans la vie. Et puis un dernier texte auquel je voudrais faire allusion, c'est 1 Pierre 3, 1 à 4, où dans ce passage, Pierre relève, comme Paul, que les femmes peuvent, dans certaines circonstances, peuvent mettre en valeur le message de l'Évangile par la qualité de leur vie. Et là, Pierre a en particulier à l'esprit les conjoints non chrétiens de femmes chrétiennes. Ce qui arrive. Dans notre église, on a une femme qui est là depuis des années. Moi, je la connais depuis 20 ans au moins. Elle est toujours là seule. Son mari vient jamais. Elle est toujours là. Et donc, Pierre dit à ces femmes chrétiennes, femmes, soyez de même soumises à vos maris, même s'il n'est pas chrétien, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière chaste et réservée. C'est intéressant. On a en quelque sorte des témoignages, et je pense c'est universel, c'est dans toutes les cultures. Les hommes sont touchés quand les femmes ont une attitude respectueuse vis-à-vis d'eux, en particulier les épouses. Et là, on a un cas très intéressant dans l'Ancien Testament. C'est le roi Assuérus, dans le livre d'Esther. Ce roi, c'était quelqu'un d'important. Il était à la tête de 127 provinces qui allaient de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Et ce roi magnifique, il a organisé une grande fête, je sais pas en l'honneur de quoi, mais il a organisé une grande fête. Et puis, au septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il a demandé qu'on fasse venir la reine Vashti pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Et là, oh scandale! Vashti donc dit, non, j'irai pas. J'irai pas. Peut-être parce qu'elle a le sentiment d'être utilisée comme un objet de parade. Regardez, la reine, elle est à moi. Elle a dit non, je joue pas ce jeu, moi. Oh, Assuérus, bien sûr, il a été humilié publiquement, très en colère. Et alors, il se tourne vers les sages, il les consulte, et les sages prennent tout de suite la mesure de la gravité de ce refus. Et ils anticipent les conséquences. Ils lui disent, l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assuérus avait donné l'ordre qu'on amène en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Waouh! Un bon point pour nous! Et les sages disent au roi, ce qu'a fait Vashti, ils l'avertissent, hein? Les épouses et les princes de Médie et de Perse pourraient aussi le faire. Et là, beaucoup de mépris, de là, beaucoup de mépris et de colère. Alors, pour couper court à un possible antique MeToo, vous avez entendu parler de MeToo, les conseillers du roi lui recommandent de destituer Vashti et de prendre une autre reine. Voilà, comme ça, le problème était réglé. Mais cette histoire, elle nous dit quelque chose de très important à propos des limites de la soumission qui est demandée aux femmes. Parce que peut-être que Vashti, elle avait finalement raison de refuser d'être traitée de cette manière. Quand un conjoint menace sa femme physiquement, cette femme, elle a le droit de s'en aller pour trouver protection ailleurs. Quand une femme subit des abus verbaux ou toutes sortes de mauvais traitements, elle est en droit de chercher de l'aide et de considérer même la possibilité de sortir d'une telle relation. C'est pas une infidélité de sa part. Quand un homme se comporte d'une manière indigne, qu'il n'assume pas ses responsabilités, il peut pas s'attendre à ce que sa femme continue de lui faire confiance et de le respecter comme tête du foyer, parce qu'il n'est pas la tête du foyer. Je me souviens d'un titre d'un livre en anglais qui disait Willing to follow, but forced to lead. Je voulais suivre mon mari, mais j'ai été forcé d'être celui qui conduit. Parce qu'il y a des hommes qui démissionnent, qui préféreraient être dans le rôle d'une femme que dans celui d'un homme. Voyez, ça c'est une chose qui est très importante à dire, c'est que la Bible ne parle jamais de soumission inconditionnelle des femmes. Jamais. Alors, je propose qu'on revienne à Pierre. Il dit à ces femmes qui sont liées à un homme inconverti, pour gagner le cœur de ces hommes non chrétiens, il leur recommande d'éviter les moyens de la séduction habituelle, les beaux vêtements, les coiffures, les bijoux, etc. Même si dans un couple normal, ça fait du bien, c'est beau, c'est bien d'être soi-même bien tenu. La femme vis-à-vis de son mari, le mari vis-à-vis de sa femme, tout le monde apprécie ça. Si vous êtes en haillons, ma femme, elle n'apprécierait pas que je sois en haillons. C'est sûr, et moi non plus. Mais il dit, c'est pas l'arme principale. C'est pas la séduction qui est l'arme principale. L'arme principale, c'est le cœur. C'est le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est ça qui pèse dans la balance chez un homme sensé, disons. Et puis il ajoute au verset 6, faites tout ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est-à-dire la crainte que malgré tout, mon mari m'abandonne, ou la crainte qu'il ne devienne jamais chrétien. Et Pierre dit, persévérez, n'abandonnez pas, continuez de l'aimer. Ça, ce sont les textes où Dieu s'adresse aux femmes. Mais dans un couple, il y a aussi un homme. Et il y a des textes qui parlent aux hommes. Et voilà quelques recommandations adressées aux hommes. Il y a trois passages qui s'adressent à eux, deux de Paul et un de Pierre. Colossiens 3, 19, Pierre, Paul dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Qu'est-ce que ça veut dire être aigri? Une personne aigrie, elle dit, ah, c'est toujours la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? T'es toujours en retard. Ou beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, c'est un état de frustration chronique. On est agacé parce qu'il y a des choses qui reviennent toujours et on n'arrive pas à les changer. Et Paul dit, ne vous aigrissez pas. Persévérez. Et cet avertissement de Paul ici, il nous permet de mieux comprendre la recommandation que Pierre fait dans le passage de 1 Pierre 3, 7, où il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Aujourd'hui, un sexe plus faible, c'est inadmissible comme traduction. Parce que d'abord, les femmes ne sont pas plus faibles moralement. Ce que laisse entendre peut-être ce verset. Elles ne sont pas plus faibles moralement. Mais physiquement, oui. Physiquement, c'est pas des hommes. Mais Dieu l'a voulu ainsi. C'est pas leur faute. C'est comme ça. Et c'est une réalité avec l'homme, avec laquelle l'homme doit vivre et accepter. Et le grand problème de beaucoup d'hommes, c'est que ils voient que leur femme est différente. Et ils voudraient que cette différence disparaisse. Ils voudraient que leur femme puisse se comporter et parler comme eux d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes sont totalement incompréhensibles. C'est une île mystérieuse. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais visité. Ils n'ont jamais pris le temps de comprendre. Et j'aimerais juste pour un petit peu imager la différence entre les hommes. C'est une image que, c'est une des différences dont vous êtes déjà conscient. Mais prenons l'image de la maison. Quand un homme construit une maison, on parle de l'homme générique, hein, il y a toujours de multitudes d'exceptions, mais l'homme générique, il construit une maison. Qu'est-ce qu'il fait pour construire une maison? Il va ouvrir une carrière quelque part pour ramasser les pierres dont il a besoin. Il va inventer le ciment pour que les pierres tiennent ensemble. Il va inventer toutes sortes de machines pour creuser, pour couper, pour souder, etc. Il va faire cuire des tuiles dans un four. Il va inventer des panneaux solaires, toutes sortes de choses. Bref, il fait tout ce qui est nécessaire pour avoir un bâtiment qu'on appelle maison. Et quand il regarde sa maison, il est très fier, il trouve que c'est vraiment un travail admirable. Mais la femme, elle vient, puis elle regarde la maison, puis dans son esprit, effectivement, ça ressemble à une maison. Mais pour elle, c'est pas un foyer. C'est pas un foyer, c'est juste une maison, en briques ou en béton. Mais c'est mort. L'homme construit la maison. Mais c'est la femme qui fait vivre la maison. Donc elle va peindre les murs, Elle met des tapisseries. Elle pense à tout le mobilier. Elle pense aux appareils ménagers, à la vaisselle, à la literie, aux produits de ménage, aux tableaux à accrocher au mur, aux fleurs à mettre sur les tables, aux petits plats que son mari aime. Parce que pour elle, une maison, ça doit être un foyer. Ça doit être un lieu qui n'est pas un garage ou un dépôt. Parfois, ma femme, elle me dit, « Bon, notre appartement, c'est pas un garage, s'il te plaît. » Elle le dit aussi à notre fils, « C'est pas un garage. Tu peux pas mettre, tu peux pas accumuler toutes tes trouvailles, les branches et les cailloux, etc. » Donc, c'est pas un garage ni un entrepôt. Pour la femme, la maison, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu pour se parler, pour se réjouir, pour faire la fête avec des amis, pour avoir des enfants, pour les aimer, les éduquer, etc. C'est-à-dire que la femme, elle est sur la relation. Les hommes, en tout cas la grande majorité des hommes, ils aiment créer des systèmes mécaniques, des systèmes administratifs, législatifs, éducatifs, tous les systèmes possibles. Ils aiment ça. Parce que c'est le moyen de contrôler la création et les populations. Donc, les hommes, ils réfléchissent souvent dans la généralité. La femme, elle, elle aime faire pousser des fleurs. L'homme, il dit, ça sert à quoi? Elle aime faire pousser des fleurs pour décorer son foyer. Elle aime surtout créer des relations pour que les gens se sentent compris et aimés, pour que la paix règne dans la famille et dans la société. Souvent, j'ai été en conflit avec ma femme, puis je me disais, oh, bah, on est en conflit, mais quoi, c'est normal, c'est la vie. Hein. Ah non, mais pour ma femme, non, non, c'était pas la vie du tout. Justement, c'est pas la vie d'être en conflit. Il faut la paix, sinon c'est pas la vie. Et moi, j'ai dû apprendre la leçon que, en fait, vivre dans des conflits, c'est pas la vie. Il faut régler les conflits. Il faut retrouver la relation. Et ma femme m'a énormément aidé dans ce domaine. Alors, ces différences, quand les conjoints ne les prennent pas en compte, ce sont des causes de frustration chronique et de beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça qu'en raison des grandes différences qui existent entre hommes et femmes, Pierre rappelle aux hommes, honorez vos épouses comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et ça, c'est le point essentiel. C'est comme si Pierre disait, oui, vous êtes bien différents dans toutes sortes de manières, mais vous avez quelque chose d'essentiel en commun, c'est que vous avez le même Sauveur, le même Seigneur, que vous allez au même endroit. C'est ça qui doit vous unir. C'est pas vos différences secondaires qui doivent vous diviser, c'est l'essentiel qui doit vous réunir. Et il dit donc, le fait que vous avez le même Sauveur devrait vous rapprocher. Ta femme et toi, vous êtes co-héritiers de Christ. N'oublie pas cela, afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. Et puis, il y a un dernier passage, et j'ai presque terminé. Si vous regardez l'heure, je sais pas, mais j'ai presque terminé. Le troisième passage, c'est le plus décapant pour l'homme. C'est Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et Paul dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est aimer leur femme comme ils s'aiment eux-mêmes. Et donc, par-delà toutes les différences qui existent entre homme et femme, l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Oui, Dieu a établi l'homme chef de la femme, mais il n'a pas établi un tyran, il n'a pas établi un dictateur ou un seigneur, il a établi dans la réalité, mais une réalité qui n'est pas respectée, il a établi dans la réalité l'homme comme serviteur. Comme serviteur, comme Christ a servi l'Église et a donné sa vie pour elle. Et voyez, Jésus, il est l'homme fort, il est l'homme fort vis-à-vis de Satan et du péché. Mais il dit aussi que son joug est doux et léger. Eh bien, ça, c'est le modèle pour les hommes. Ils doivent être forts vis-à-vis du péché et de Satan. Mais leur manière de conduire leur famille doit être caractérisée par la douceur et la bienveillance. Sinon, ils sont à côté de la réalité que Dieu veut pour le couple. Je termine. J'ai fait allusion à ce vent de révolte qui souffle depuis longtemps dans la société, mais qui atteint aussi l'Église. Et cette révolte, elle se concentre sur le fait que la femme soit appelée à faire confiance à son mari comme son leader. Et cela quand beaucoup entendent cela, même dans l'Église maintenant, quand ils entendent cela, ils disent, ça c'est scandaleux. Ah bah le patriarcat. Vous savez, ma femme, elle était dans une grande chaîne de distribution de bouquins il y a quelque temps. Elle a trouvé un cahier gratuit. Un cahier gratuit. Le titre, c'était Mes idées pour abattre le patriarcat. Et chacun pouvait se servir. Il y avait pour probablement une 50 pages où chaque femme, probablement en particulier, pouvait écrire ses idées pour abattre le patriarcat. Oui, eh ben, ce que la Bible nous dit, c'est pas à arranger sous la rubrique patriarcat. C'est absolument pas ça. La Bible nous appelle à être serviteurs l'un de l'autre dans le couple. Même s'il y a un des deux qui doit assurer le lead, la conduite. Et évidemment que les fautes des hommes sont nombreuses, réelles et évidentes. Et donc, les femmes ont raison de protester dans certains domaines. Elles ont raison parce qu'elles sont maltraitées. Mais, La solution à ces maux, elle n'est pas dans la subversion de la structure relationnelle que Dieu a établie. Elle est dans la conversion à Christ, qui ensuite nous permet de vivre au sein de cette structure relationnelle voulue par Dieu de manière satisfaisante. Et c'est en Christ, le troisième de deux, que l'homme et la femme retrouvent leur identité réelle et sont capables d'aimer leur conjoint avec toutes ses particularités afin ensemble de remplir leur mission sur la terre. Et c'est pour cela qu'il est bon et juste de prier pour les familles comme vous le faites. C'est juste. Parce que la famille, c'est ce que Dieu a créé de plus beau pour l'humanité. C'est dans la famille que les hommes et les femmes peuvent se retrouver avec en face de soi, dans l'idéal, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui les soutient et quelqu'un avec qui ils ou elles peuvent construire la paix. Par l'œuvre que Dieu leur réserve. Que Dieu nous aide à vivre cela de manière constante, de manière à ce que les gens dans le monde nous regardent et nous disent, Oh, J'aimerais avoir ce que vous avez. Et là, vous avez un boulevard pour leur parler de Jésus. Amen. Amen. Si ces quelques réflexions vous inspirent dans la prière, je vous invite à prier. Et puis, je terminerai en disant Amen.